ahí va Alberto,
Contador.
Ahí va Alberto. Cambio de ritmo de Alberto Contador. Ahí la parte
Andy
final.
Schleck.
Como una moto,
Nibali, Nibali, Nibali,
Nibali.
Andato.
Nibali. Prova Nibali.
Grandissimo Vincenzo.
Metri. Dietro si voltano. Dietro si voltano.
Lascele Watts. Oh là là, mais c'est pas. Mais Lance sort de ce corps.
Bonjour à tous, c'est Luca et bienvenue pour un nouveau débrief by Dossard 13. On se retrouve aujourd'hui pour parler tranquillement de ce qu'il s'est passé sur ce formidable Tour de France version 2023. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses sur ces 3 semaines. On n'a pas été trop présents, mais on est là pour vous donner notre ressenti. Et pour cela, je suis toujours en très bonne compagnie. Comment vas-tu aujourd'hui, Guillaume ?
Ça va, le classique blues d'après Tour de France. On a vécu de sacrées émotions ces 3 dernières semaines. Moi, j'ai même eu le droit à un Luca qui monte le Grand Colombier. Oui, oui, Luca sur un vélo. Et puis voilà, et toi, Luca, la forme ?
Bah écoute, ça va, comme tu l'as dit, blues d'après Tour. On enregistre cet épisode le dimanche juste après les champs. On a vécu un Tour de France très fort en émotions, aussi bien positives que négatives. Et cela du premier jour avec le panache des jumeaux Yates à la surprise de Jordi Meus sur les champs. Que ce soit des larmes de joie ou de tristesse ou même les deux à cause de Thibaut Pinot, un mélange de sentiments. On aura eu le droit à un grand cru pour ce Tour de France 2023. Et surtout presque aucun temps mort et très peu d'étapes sieste, même comparé aux autres années. Puisque même les étapes de plaine nous auront régalé. Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet pour parler de ce qui a fait débat même durant ces 3 semaines et qui a fait débat même l'an dernier et qui le fera aussi sûrement l'an prochain. C'est le duel des titans entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Le Slovène n'a pas gagné, mais il a sûrement remporté plus que jamais le cœur des supporters avec un panache fou jusqu'à la dernière étape sur les champs où il a placé plusieurs accélérations et fait le spectacle. Et on ne peut que le féliciter pour ça. Mais face à un Jonas Vingegaard qui est arrivé sans pépin dans sa préparation, la bagarre a été presque perdue d'avance.
Ouais, perdue d'avance. On y a quand même cru hein, pendant 2 semaines. Jonas a remporté, on se souvient quand même, le premier round à la Reims en sortant dans Marie-Blanc. Et Tadej, le second le lendemain, à Cotterêts-Camp-Basque. Franchement, moi, sa célébration iconique, j'ai adoré. Et statu quo jusqu'au contre-la-montre, avec quelques secondes par-ci par-là d'un côté ou de l'autre. Et voilà, au contre-la-montre, bah, Jonas a atomisé la concurrence. Je pense qu'on était tous estomaqués face à une telle performance. Et le lendemain, dans le col de la Lauze, Tadej Pogacar va connaître son premier jour sans dans sa carrière. À titre de comparaison, il avait dit que même dans le granon l'an dernier, c'était pas à ce point-là. Et du coup, c'est dans ce col qu'il a laissé ses rêves de victoire s'envoler.
Mais on est quand même restés tous estomaqués. Je m'en souviens au boulot, après le chrono de Vingegaard, parce qu'il a juste atomisé la concurrence, avec même rien qu'en parlant des watts par kilo, même entre lui et un Van Aert qui finit 3ème à presque 3 minutes, enfin sur 22 km, c'était complètement fou. Et même par exemple la prestation de Pogacar sur la planche des belles filles en 2020, si je dis pas de bêtises, c'était dingue aussi, mais forcément un peu moins, parce que l'étape était plus accidentée, et forcément la planche des belles filles, là c'était pas le même typologie de chrono, mais même Vingegaard aussi bien dans son implication sur le chrono en termes de prise de risque dans les virages, mais tout simplement en termes de puissance et de watts développés, c'était totalement fou ce qu'il a montré ce jour-là.
Ouais, totalement fou, même lui était surpris. C'était peut-être un poil gênant l'interview. On accuse personne, on dit rien, c'est bon, mais c'est vrai que des fois il y a des attitudes de la Jumbo un peu détestables. Je pense qu'on en reviendra un peu après.
Non, et puis surtout pour revenir sur cette performance-là, c'est juste que tout le monde était sur le cul parce que même Pogacar avait mis une claque à tout le
Bah
monde.
oui.
Mais là, la comparaison, et puis on s'attendait aussi à ce que le duel soit plus équilibré. Et bah moi, au moment où Pogacar arrive, et même dans les derniers kilomètres, il avait un peu la même gueule que Remco quand il avait le Covid sur le Giro lorsqu'il remporte le chrono. C'est pas pareil, encore une fois, en termes de performance. Même Pogacar a bien plus performé que Remco ce jour-là parce qu'il était pas très bien, même s'il le remporte. Mais globalement, ouais. La performance de Vingegaard sur ce chrono était folle. Et puis, comme dit, la mentalité scandinave fait que le Danois semble aussi plus réservé et plus froid, mais quand on le voit dans le Marshine se retourner sans cesse comme si Pogacar n'était qu'à 20 secondes au général, alors qu'il est à plus de 7 minutes, bah c'est juste dommage en fait.
Ouais, dommage, mais bon. Voilà, on a cru un spectacle en troisième semaine pendant 2 semaines et on a vite été refroidi. Ensuite, on va quand même parler des autres parce qu'il y a les deux extraterrestres et les autres. Ouais, petite frustration quand même avec l'abandon de Mas et Carapace dès la première étape. Moi, je rajouterais aussi une frustration avec l'abandon de Jorgensen, pardon. Toute l'année, il montait en puissance. Et même pendant ce Tour de France, il se montrait de plus en plus et malheureusement abandon. On a eu Hindley qui part en éclat aussi après une première semaine très offensive. D'ailleurs, ça doit être celui qui était le plus offensif parmi tous les autres concurrents. Il n'a pas attendu que la première semaine passe pour passer à l'attaque et moi j'ai été très heureux de le voir en jaune. Malheureusement, Godu inexistant. On reviendra dessus un peu après, mais. Moi, je suis tellement déçu quand je me rappelle son Paris-Nice, donc voilà. Peut-être un problème de préparation, peut-être qu'ils corrigeront ça l'an prochain et qu'on le reverra plus devant, je l'espère. Et enfin, Rodriguez qui, malchanceux, comme sur la Vuelta l'an dernier. Punaise, l'étape, l'avant-dernière étape, il pouvait espérer un podium et il se fracasse la gueule et on a des images de lui encore avec l'arcade en sang. Assez impressionnant, mais au final, non, il a bien tenu dans la dernière remontée. Et on a eu le droit. Logiquement, au duel des frères Yates, pour le podium. On a eu droit à des images vraiment très drôles avec les frères Yates, avec la même cadence de pédalage, debout, la même distance, enfin bref. Vraiment la bromance, mais voilà. Le podium s'est joué entre les frères Yates.
On a discuté des deux premiers et de la lutte pour le podium. On va passer maintenant au maillot distinctif avec Philipsen et Chicone. Aucun débat possible pour Jesper Philipsen. C'était clairement le meilleur sprinter de ce tour. Il remporte 3 étapes, 4 top 5, dont 2 deuxième places. Sa pointe de vitesse était folle et son placement quasiment imbattable. Toute l'équipe Alpecin était autour de lui avec des Ricards et notamment Mathieu Van Der Poel qui s'est muté en poisson pilote de luxe et qui a quand même très bien fait ce job. Donc il a été presque parfait notamment sur les 3 bouquets qu'il a remportés, sauf le troisième où il s'est dit on se fait un petit groupetto. Et puis de l'autre côté, dans la chasse au point de la montagne, Giulio Ciccone, qui est littéralement le seul rayon de soleil du cyclisme italien, vient décrocher avec panache son maillot à pois. Et il a été aidé par un formidable Skelmose et un Mats Pedersen totalement enflammés. Et il a su la jouer très intelligemment face à ses adversaires. Il le voulait, ce maillot. Il était l'un des grands favoris. Et il l'a eu, donc félicitations à lui. Je dirais que peut-être il manque, allez, pour couronner le tout, une petite victoire d'étape. Mais globalement, mission réussie pour Trek avec la victoire de Pedersen à Limoges. Et puis le maillot de meilleur grimpeur pour Ciccone. Good job, good job.
Ouais, vraiment content de la manière dont a été gagné le maillot de meilleur grimpeur cette année, parce que généralement il est gagné par quelqu'un du général. Donc ça fait plaisir. Après, il n'y avait pas beaucoup qui se l'ont disputé, quoi. En tête, on a Giulio Ciccone et Paulès, mais peut-être des choses à revoir encore une fois dans l'attribution des points. Ensuite, j'ai envie de parler moi un petit peu du super combatif. Alors voilà, j'aime beaucoup Campenaerts. Il a été élu super combatif du tour, mais moi je suis pas spécialement d'accord. C'est vrai qu'il a été très à l'attaque, mais pour moi, par exemple, un Julien Alaphilippe a été plus à l'attaque, avec moins de succès peut-être, mais bah, Julien a fait plus de 800 km en échappée quand même, il faut les faire. Thibaut Pinot, les 2 dernières semaines, pour moi, a été plus en vue aussi. Alors, il n'y a aucun chauvinisme parce que, en vrai, même Paulès, personnellement, je l'aurais mis avant Kampenaerts. Après, voilà, Paulès, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'échappées, il pourrait gratter 5-6 points par-ci par-là. Voilà, on peut se remettre en question cette tactique. Peut-être qu'il a manqué de force sur des étapes après de montagne où il est échappé, c'est dommage, mais voilà. Pour le coup, cette année, super combatif, je suis pas très d'accord. Hein.
Il faut pas oublier aussi la culture de l'instant. Kampenaerts, il était énormément présent sur cette fin de tour en échappée. Et les gens aussi retiennent ça. Mais en vrai, il a été quand même pas omniprésent sur les premières étapes non plus. Mais il a été toujours par-ci, par-là. Il a souvent aussi roulé pour Ewan. Il a fait quelques échappées en deuxième semaine. Mais c'est sûr que sa troisième semaine est imbattable en termes de panache, j'ai envie de dire. Mais oui, moi je l'aurais peut-être mis à un Paulès, notamment pour son début de tour. Et après, bah, on reviendra aussi un peu sur le cas de Julien. Mais... Julien souvent en échappé, mais bon, être en échappé pour faire ce qu'il fait, ça se voit qu'il a plus la bonne pastoche, quoi, j'ai envie de te dire, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Déçu par le tour de d'Alaphilippe dans sa globalité, comme déçu de ce qu'il fait sur le vélo depuis maintenant plusieurs mois.
C'est un long débat, mais moi je voulais finir cette parenthèse super combatif avec une petite anecdote. Avec Luca, on était dans les lacets du Colombier. Luca a crié un bon, allez, allez Victor. Victor lui a fait un petit clin d'œil charmeur. Voilà, il n'en fallait pas plus. On était les plus heureux du monde. Enfin, surtout Luca. Est-ce qu'il est tombé amoureux après? Je sais pas, mais ça régale. Titre perso, j'ai proposé à Alexis Renard de passer la plaque. Il s'est retourné, il m'a un peu rionné. Je pense qu'il était à bloc. Voilà. Bon, on va parler tout de suite de quelque chose qui... J'ai envie de sortir la phrase bateau, Luca. Il faut pas pleurer parce que c'est fini, mais il faut sourire parce que c'est arrivé. Avant, il y avait les allez poupou, et dorénavant, on se souviendra des allez Thibaut. Que d'émotions pour tout le monde, surtout sur l'étape 20. Oh, le virage Pinot, mais c'est légendaire. Enfin, je pense qu'on est plus d'un à avoir eu les larmes aux yeux, surtout au passage. Dans le virage Pinot, parce que, enfin, je veux dire, sur l'étape 20, ok, Thibaut, il gagne pas, mais il fait l'étape qu'il doit faire. Il est dans l'échappée. Et pour le coup, il part pas trop tôt en échappée, il part au bon moment. Je veux dire, il pouvait pas faire la plus belle course. Et en plus de ça, il arrive en tête dans le virage Pinot. Seul, en tête. Et j'imagine même pas dans le virage Pinot l'ambiance que c'était, parce qu'ils avaient aucune nouvelle de, enfin, ils savaient pas où en était Thibaut, ils savaient juste qu'il était en échappée. Alors imagine quand il débarque. Donc bon. Je pense avec Luca, on s'est mis d'accord. On ira dans le virage Pinot autour de Lombardie à organiser, mais on peut pas louper ça pour le coup. Et après, un petit mot sur cette 20e étape. Voilà, moi j'ai beaucoup râlé. J'ai regardé l'étape avec Luca, j'ai beaucoup râlé. J'ai adoré le Tour de France de Félix Gall. Mais pour le coup, sur cette 20e étape, pourquoi tu roules à bloc avec Jonas et Poggi dans la roue? Qu'est-ce que tu voulais faire? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment, ça s'est vu clairement qu'il aurait pu profiter du marquage entre les deux. Sauf qu'il avait plus, il n'avait pas beaucoup d'énergie dans la patte pour partir. Justement, Luca en parlait tout à l'heure, mais ce moment où Jonas se retourne vraiment toutes les secondes. Il met, enfin vraiment, c'était aberrant. Et Jonas, toutes les secondes, il se retourne, il met un coup de tête à derrière. Mais il aurait pu partir tellement en facteur à ce moment-là, Félix. Alors pourquoi t'as roulé à bloc, frérot, avec les deux extraterrestres dans ta roue? Alors, c'est vrai que d'un autre côté, Thibaut aurait pu peut-être rentrer, donc tout le monde aurait été heureux. Mais pour le coup, ramener les deux zigotos dans ta roue, je trouve ça un peu big. Alors peut-être qu'ils se sentaient très forts, mais les deux derrière, même quand ils se sentent pas forts, ils sont plus forts. C'est ça le problème. Je vais enchaîner avec Cofidis. Alors, on s'incline vraiment, Cofidis, bravo. Deux étapes frissons avec Lafay et Izaguirre. Et Guillaume Martin, encore top 10 du Tour de France. Bah, GG Cofidis. Franchement, si on m'avait dit qu'il ferait un si bon Tour de France avant le départ, j'y aurais pas cru. Alors, une victoire d'étape, j'y aurais vraiment cru pour coup. Mais alors, deux victoires d'étape et un top 10, bah, bravo. Pour Lafay, encore plus que sa victoire, c'est sa performance sur la première étape. Souvenez-vous, oh là là, il nous a bluffé. Bah, il était avec Pogacar et Vingegaard. C'était le seul à pouvoir suivre les deux cracks. On a même cru qu'à un moment, il pourrait profiter du marquage et surtout sa victoire est, en termes de stratégie, bah, elle est parfaite. Faire le coup du kilomètre comme il l'a fait en costaud, bah, masterclass, rien d'autre à dire. Et j'espère, alors là je me la pète, mais j'habite pas loin de chez lui. J'espère vraiment un jour le croiser en entraînement et juste prendre sa roue. Juste 100 mètres, c'est pas grave, juste 100 mètres. Mais ouais, et Cofidis, franchement, masterclass. Après, voilà, Guillaume Martin, encore un top 10 du Tour. En vrai, au vu de sa saison, c'était pas forcément gagné. Il avait du mal à retrouver ses pattes des dernières années. Bien joué. Alors, éternel débat, est-ce qu'on repart l'an prochain pour un énième top 10 sur le Tour? Voilà, c'est vrai qu'un top 10 sur le Tour, tout le monde nous dit que c'est énorme et que c'est sous-estimé des fois. Moi, j'aimerais bien que Guigui Martin peut-être se mette d'autres objectifs en tête. Pourquoi pas le maillot à poids ou une victoire d'étape? Après, ça va être pour le maillot à poids. Bah, des fois, il faut sprinter en haut d'école et c'est pas non plus lui qui a la plus grande giclette. Donc bon.
Tu nous as fait le fanboy sur Victor Lafay. Je crois que tu avais aussi un autre mot à dire sur un autre de tes idoles.
Ouais, je suis dépité. Ah, j'ai eu les frissons, hein. Cavendish, la victoire n'est pas passée loin pour lui à Bordeaux. Quand je l'ai vu débouler avec toute la vitesse, je me suis dit, ça y est, c'est là, c'est le record. Mais bon, Philipsen était trop fort et putain, une clavicule en moins. C'est triste qu'il n'ait pas eu la même fin qu'un Thibaut Pinot. Mais bon, Astana a déjà proposé un an de contrat en plus. Il s'est pas trop, pour l'instant, Marc s'est pas trop prononcé dessus, donc je sais pas s'il en pense. Moi, je suis pas contre, parce qu'il m'a bien fait fermer ma gueule au Giro. Donc, je suis pas contre, parce qu'on a bien vu que sur une étape, bah, il a l'expérience pour se glisser au bon endroit et aller chercher bah, peut-être le record. Mais voilà. C'est vrai que pour moi, cette année 2023, mes deux plus gros idoles s'en vont. Petit pincement au cœur, quand même.
Et on va finir aussi ce petit chapitre également sur le petit poussé du Tour, Uno X, qui a été presque tout le temps aux avant-postes. L'équipe a essayé de se frotter sur les sprints massifs avec Vorage Cold et Christophe. Sur les étapes de plaine, notamment avec Abrahamsen qui a cherché un joli podium sur l'étape où Asgreen l'emporte. Et aussi lorsque la route s'élevait avec Tobias Johansen qui a montré de belles choses et pourquoi pas donner rendez-vous à l'avenir pour remporter une étape ou même pourquoi pas un maillot à poids. Il est encore jeune. C'est un prodige, mais peut-être je m'attendais un peu à mieux aussi de lui pour jouer, pourquoi pas, un top 10 sur le général. C'est encore juste pour son premier grand tour, mais en 2024, j'aurais quand même beaucoup plus d'attentes sur lui. Et pour finir un peu, pour parler de cette équipe norvégienne, dommage quand même pour Thorstein Tren et Rasmus Seiler qui étaient plutôt décevants, alors que les deux auraient pu faire de belles choses. J'espérais qu'ils fassent de belles choses. On va enchaîner sur les flops, parce qu'il y en a quand même eu. On va commencer par une formation française, la Groupama. Il faut pas se laisser absorber par toute la ferveur qu'il y a eu autour de Thibaut Pinot. Il a fait l'étape qu'il devait faire sur le Grossmarstein, mais malheureusement, il est tombé sur meilleur que lui, tout simplement. Mais dans la globalité, la Groupama, ça reste très faible. Gaudu, certes, avec sa malchance, mais il n'avait pas les jambes. Même à Stéphane Kung en échappé, il n'a pas pu décrocher. Et puis même dans la globalité, dans la façon de courir de l'équipe, à part en, on va dire sur certaines étapes où Madouas par exemple sur la 20e était avec Pinot devant. Mais sinon, putain, ça court à contre-temps, ça n'a pas de sprinter. Du coup les étapes de plaine, ils sont pas non plus spécialement là et ils ne tentent pas leur chance en échappé. Et puis même dans la globalité, enfin, je suis déçu.
Ouais, d'accord avec toi, Groupama, il y avait matière à faire et des choix dans la line-up qui posent question. Voilà, si vous faire on va pas faire tout de suite le bilan de fin d'année, mais pour l'instant, c'est compliqué Groupama. Alors leur mercato encore une fois est parfait pour à mes yeux, mais il manque quelque chose pour ces années de transition, le temps que les jeunes arrivent à maturité.
On va parler aussi de quelques sprinters, Groenewegen qui était en deçà de ses capacités, Caleb Ewan qui nous fait une Ewan et qui marque clairement la fin de son chapitre avec Lotto qui devrait tout miser sur un autre délit parce que même comme Elo l'a dit, le manager de l'équipe, il était très déçu de Ewan, mais parce que c'est normal, dans une équipe qui cherche le moindre point pour remonter en World Tour, un mec qui finit même 3e ou 4e d'une étape du Tour, tu prends. Et Ewan, en fait, quand il joue pas la victoire, il se relève pour finir 14-15e. Et non, va jusqu'au bout, Minou. Mais bon.
Ouais, surtout qu'on était là sur cette étape et on a vu les deux lotos dans le Grand Colombier, loin derrière les pauvres, alors qu'ils ont attendu leur leader aussi longtemps que possible. Donc, vraiment du gâchis. Moi, j'ai un autre flop. Alors, grand respect pour la carrière. Merci d'avoir rendu le vélo un peu plus passionnant à une époque où la Sky cadenassait tout. C'est Monsieur Peter Sagan. C'est méchant de le mettre dans le flop, mais d'un autre côté, il y a des choses, des fois, c'est difficile. Sagan a eu le droit de faire le Tour de France, alors qu'au mois de mai, il était arrêté à Monaco en état d'ébriété à bord de sa voiture. Enfin, je veux dire, quel professionnel à un mois et demi du Tour se fait aligner sur le Tour de France alors que ce genre d'accident arrive? Je veux dire, ça craint quand même. Donc bon, voilà, c'est sûr qu'après c'est Sagan, sur un malentendu, il aurait pu ramener une victoire. Au final, il a peut-être ramené un top 7, c'est pas méchant, mais pour ce tour-là, c'est je pense que d'autres jeunes du côté de la Total auraient peut-être mérité leur chance. Voilà, mais merci et bravo Peter Sagan pour cette carrière. Et surtout, comme je le répète encore une fois, il a rendu le vélo intéressant à une époque où on s'ennuyait quand même beaucoup.
De toute façon, dans l'entourage de Total, ça grinçait fortement des dents avant ce tour et même, je pense, pendant, parce que le comportement d'un Sagan ne plaît pas. Et surtout, tout le monde, on va dire, avait un peu hâte que ce chapitre Sagan se finisse pour passer aussi à autre chose et pourquoi pas se reconstruire pour 2024 autour d'un Alaphilippe. Mais bon, ça c'est encore autre chose.
Bah, puis surtout, ouais, ça sera un autre débat. Mais il faut enfin, un Sagan qui s'en va, c'est quand même de l'argent qui se libère du côté Total. Donc, ça serait bien d'utiliser cet argent à bon escient.
Ouais, mais du coup, c'est pas en prenant Alaphilippe que tu l'utilises à bon escient.
Pas forcément. En tout cas, pas avec ce qu'il nous montre cette année. C'est méchant, mais on aura ce débat sans doute sur un autre épisode.
Pour finir un peu sur les flops, je m'attendais à mieux du duo Mathieu Van Der Poel-Wout Van Aert, aussi sur la performance individuelle, surtout parce qu'en termes de collectif, ils ont été ultra précieux pour leur équipe. Mais ça reste deux leaders et au final ils se sont mutés en équipiers avec en tête les prochains mondiaux. On a également la doublette de Bahreïn, Landa Bilbao. Je m'attendais surtout à mieux de Mikel Landa. Bilbao, on va dire, il a tenu son rang, mais le premier cité, le basque Mikel Landa, peut-être un poil de déception et tout simplement l'âge commence à se faire ressentir, quoi.
Ouais, Landa, gros flop. C'est dommage, mais gros flop.
Pour continuer aussi dans la foulée des semaines qui ont suivi le début de saison, Intermarché qui ne perfe plus et qui a débuté sur les chapeaux de roue et au final rien de fou au fil des semaines et encore une fois sur ce tour Guermay et son équipe n'ont pas été à la hauteur de leur rang et même de l'année dernière tout simplement. Et dernier point, Bardet et DSM, moi de mon côté, qui m'ont assez déçu. Bardet, tout simplement, il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait sur ses routes même. Et DSM, c'est un peu autour de lui. Même par exemple, la Welsford pour les sprints n'a pas réussi à montrer qu'il était présent, tout simplement.
Un petit mot sur Bardet, c'est vrai que Bardet, dès qu'il fait trop chaud sur la route du Tour, c'est toujours le même schéma. Hein. Il explose vraiment, il explose à chaque fois qu'il explose, j'ai l'impression que c'est quand il fait plus chaud. Donc j'imagine qu'il se prépare, mais peut-être que pour ces dernières années au plus haut niveau pour les classements généraux, peut-être qu'il devrait se tourner vers le Giro, parce que moi, le Tour, ces dernières années, enfin je suis désolé, et Bardet, on sait qu'il marche terrible quand les conditions sont difficiles. Bah, les conditions sont plutôt froides et humides sur le Giro plutôt que sur le Tour de France. Donc moi, franchement, Bardet, pour moi, enfin, j'aimerais beaucoup le voir jouer le général du Giro les 2 prochaines années. Après, ça dépend du parcours, encore une fois, c'est sûr. Mais voilà, Bardet, dès que les 30 degrés sont dépassés, c'est difficile.
Et on va finir du coup par tout simplement les deux révélations que j'avais envie de mettre en avant sur ce Tour de France 2023. La première, c'est l'Autrichien Félix Gall, qui est pour moi la révélation sur 3 semaines, qui gagne une étape, qui fait 2 et 3 de 2 autres, et qui est second du maillot à pois. Huitième du général à 25 ans pour son second grand tour. J'espérais de lui qu'il explose sur le Giro l'année dernière, c'est finalement sur le Tour de France qu'il explose cette année. Ça va être intéressant de voir la suite, ce qu'il va réussir à faire au sein d'AG2R, si AG2R décide de miser sur lui dans les années à venir pour jouer le général sur le Giro, sur le Tour ou sur la Volta. Et ça a été aussi intéressant de voir Thomas Pidcock essayer de jouer le général. Ça n'a pas été concluant, mais la route est encore longue pour le champion olympique de VTT.
Oui, je pense qu'il peut travailler son endurance sur les 3 semaines et que ça pourrait finir par marcher en vrai.
Et puis je retiendrai que la Bora Hansgrohe aura réussi à gagner une étape et jouer le général à Kindley. Et gagner un bouquet au sprint avec Jordi Meus. Peut-être qu'une autre équipe française aurait dû s'en inspirer. Je ne vais pas citer de nom, mais tout le monde le sait. Arnaud Démare nous manque.
Ouais, une... Ah, allez Arnaud Godu. Ouais, parce que Lucas a fait 2 étapes du Tour cette année. Et la première, il a fait quelques... Enfin, il était participant à des pancartes assez pépites. Notamment une avec écrit « Allez Arnaud Godu » et l'autre « Allez » écrit « David Démare ». Voilà, ça a fait rire apparemment dans les voitures de la FDJ. Le Tour, c'est vraiment à qui est le plus con et c'est, qu'est-ce que c'est drôle des fois. Quand c'est fait avec respect, hein, avec les coureurs, attention.
Allez, place maintenant au mondial et surtout au duel Remco, Roglic, Vingegaard, Ayuso sur la prochaine Volta. C'est tout pour Dossa 13. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis et on se dit à très vite. Ciao, ciao.
Cha-na-na-na-na-na-na, Thibaut Pinot. Cha-na-na-na-na-na-na, Thibaut Pinot. Ciao.